l'Europe. Ce continent où il semble inconcevable que la fracture numérique soit encore une réalité. Et pourtant, c'est bien le cas, selon l'index DESI, qui pointe du doigt les inégalités prégnantes à l'échelle du continent. Des pays comme la Bulgarie, la Grèce ou la Roumanie stagnent parmi les mauvais élèves européens. Les inégalités entre les pays membres de l'Union sont bel et bien là. Vous êtes bien sur Culture Numérique, la quotidienne de Siècle Digital.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et je suis aujourd'hui avec Ambroise, que vous connaissez.
Salut Valentin.
Tu vas bien Ambroise ?
La forme.
Excellent, et ben, je te propose qu'on attaque dans le vif du sujet et que tu nous aides un petit peu mieux à comprendre ce qu'il se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer notamment ce que l'index DESI prend en compte ?
L'index DESI, en fait, ça note les états en fonction de plusieurs facteurs, on va trouver plusieurs critères, notamment l'intégration des technologies digitales dans la vie quotidienne, les compétences numériques des habitants d'un pays ou encore la maturité numérique de ses services publics. Voilà un ensemble d'éléments qui doit nous montrer normalement si oui ou non le digital s'est bien intégré, est-ce que c'est un plus ou au contraire est-ce que c'est un frein au quotidien des citoyens et que il y a un vrai sujet, notamment des points bloquants.
Ok, donc si j'ai bien compris, cette année on est sur une vraie fracture, d'ailleurs cette année peut-être que c'est à peu près la même chose que les autres années, mais en tout cas une fracture à peu près à l'échelle mondiale, nord-sud, c'est un peu ça l'idée ou pas ?
Alors oui, on a toujours cette fameuse frontière nord-sud, c'est vrai pour l'économie, mais c'est vrai aussi pour le numérique, et c'est ça qui peut paraître étonnant, en tout cas, le lien n'était pas forcément à faire directement. On a le nord avec la Finlande, la Suède, le Danemark qui occupent le podium de l'index DESI avec des scores qui vont de 71 à 68, donc qui sont plutôt contenus, mais qui sont vraiment les meilleurs scores. Donc c'est sur 100 hein, qu'on a. On voit d'ailleurs qu'on est encore assez loin du 100 sur 100. Et puis on a la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie par exemple. Donc là on va évidemment dans le sud. Et là on est sur des notes entre 30 et 40. On est très loin des 70. Hein. Donc là il faut voir que ça montre qu'il y a un vrai souci, qu'il y a une vraie disparité entre ces deux parties de l'Europe. Et j'ai presque envie de dire que la France, elle, se trouve un peu au milieu. C'est pas la meilleure des places avec la 16e place qu'on a. 52 sur 100.
Et alors, il y a une particularité quand même cette année, c'est qu'on observe une double fracture, à la fois numérique, on en a parlé, et aussi économique.
Alors complètement, on voit un vrai lien entre ceux qui n'ont pas cette fracture numérique et donc du coup, en termes économiques, se développent, et ceux qui, au contraire, subissent eh bien, un mauvais accès au numérique, et donc ils ne vont pas chercher les nouveaux marchés, ceux qui sont porteurs, ceux qui sont compétitifs et sur lesquels il y a des vraies places à prendre. Par exemple, justement, en Pologne, en Hongrie, souvent, on dépasse pas la note des 25 sur 100. Et pour eux, c'est très compliqué d'aller vers l'économie du numérique, du digital. Là où l'Irlande, la Finlande ou encore la Belgique occupent le haut du classement. Et il n'y a pas de souci. On sait très bien qu'ils sont à accueillir vraiment ces nouvelles technologies. C'est une sorte de cercle vicieux qui est là. Ça impacte véritablement la prospérité globale des États membres les moins avancés. Et donc, c'est un sujet à mettre sur la table et rapidement. Parce que si on ne relie pas ces économies-là qui n'ont pas accès au déploiement de la 5G, qui n'ont pas accès à la fibre, qui n'ont pas accès à des services, eh bien, on va se retrouver avec véritablement des inégalités qui existent déjà mais qui vont encore se creuser.
Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que, je fais le lien, on a parlé de fracture numérique et économique, on dit aussi que les transitions numériques et écologiques sont intimement liées, pour quelle raison ?
Eh bien tout simplement parce qu'une partie de la transition écologique se fait par le numérique. Alors c'est un grand sujet en ce moment, hein. On a la 5G où on a une fronde écologiste qui est contre son déploiement et qui dit que c'est un faux progrès et que ça revient à la bouteille d'eau en plastique, c'est pas vraiment utile et pourtant c'est très polluant. Donc on a l'impression que du coup numérique égale anti-écologie, c'est pas aussi simple que ça, il y a plus de subtilité, et dans l'écologie il y a aussi le fait d'économiser les ressources, et ça les technologies permettent de le faire. Quand on a plus d'informations, plus de données sur un système, que ça soit une usine, que ce soit n'importe quelle consommation qu'on a d'une ressource, eh bien on peut peut-être économiser en faisant en sorte de ne pas utiliser à des moments soit où il y avait une surconsommation. Je prends le cas de l'agriculture par exemple, on irrigue trop alors que c'est surtout à certains endroits qu'il faut irriguer, on met trop de produits toxiques mais nécessaires pour supprimer certains nuisibles, eh bien là on peut faire en sorte de ne pas être dans la surquantité pour être sûr en quelque sorte qu'il ne soit plus là ces nuisibles, mais vraiment sur la bonne quantité en fonction d'éléments de données qu'on peut récupérer. Vous voyez qu'en fait il y a moyen d'optimiser, d'améliorer la consommation de ces ressources avec la technologie, mais pour ça il faut des ordinateurs, il faut des algorithmes, pour ça il faut une connectivité, et tout ça c'est du numérique. Et quand on parle de fracture numérique, c'est justement ce dont ne vont pas disposer ces pays qui n'ont pas accès à cela, donc ils sont un peu plus en retard que les autres du coup pour développer cela. C'est pour ça qu'on parle tout à l'heure de cercle vicieux, ça ne les aide pas à aller de l'avant, notamment sur les sujets écologiques.
Est-ce qu'on a des pistes concrètes pour combler cette fracture numérique en Europe ?
La piste, elle est principalement budgétaire, si on en croit les discours de l'Union européenne. On sait qu'il y a un fameux budget de relance de 750 milliards d'euros. Quand on fait le point, quand un calcul est fait, l'Europe dit qu'il y a au moins 560 qui sont déjà à vocation de transition écologique et numérique. Donc apparemment, c'est open bar en termes de budget. Non, ça me fait sourire parce qu'évidemment, ils profitent de budgets déjà mis en place pour donner une couleur écologique ou une couleur numérique. Est-ce que vraiment ça va changer la donne ? Je sais pas. Je pense pas qu'on y soit encore parce que c'est une manière de rebondir et de faire taire cet index DESI pour moi plus qu'autre chose. En tout cas, il y a un programme de relance qui s'appelle Next Generation UE qui va consacrer 20% de son budget global au numérique, mais c'est un minimum qui va pour répondre aux objectifs qui sont très ambitieux quand même de l'Europe, et qui veut ses propres capacités numériques. On en parle souvent en termes d'informatique quantique, en termes de connectivité 5G, de cybersécurité, d'intelligence artificielle. De plus en plus, il y a des agglomérats d'acteurs européens pour faire en sorte que ce soit pas que la Chine ou que les États-Unis qui proposent ces solutions et qu'on soit dépendant. Il y a une question de souveraineté. La piste, c'est clairement financer, unir le marché européen avec des initiatives communes sur lesquelles on est capable de répondre. Et donc, maintenant, la question, c'est est-ce que ça va suffire ? Et est-ce que ce sont bien les bonnes pistes ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à attaquer ? Notamment, il y a l'aspect culturel. Il y a aussi de savoir tous ces grands budgets, comment ils vont être fléchés au niveau régional, au niveau local ? Comment on va aller agir au plus près des populations pour leur permettre d'intégrer cet outil du numérique pour les aider dans leur quotidien.
Plutôt d'accord avec toi. On regardera tout ça de très près. Merci Ambroise de nous avoir éclairé sur le sujet. À très bientôt.
Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only, not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.